France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans un polar d'Afrique du Sud ce soir. Bonsoir Dionne Meyer.
Bonsoir Fabienne, c'est un grand honneur pour moi.
Eh bien pour nous aussi, vraiment on est très heureux de vous recevoir de passage en France grâce à Quai du Polar, le festival à Lyon. Avec vous il y a Léo chez Série Noire Gallimard comme d'habitude. C'est la 9e fois qu'on est heureux de retrouver Benny Grissel et Vogue Cupido, vos deux flics fétiches. On dit de vous Dionne Meyer que vous êtes le roi du polar en Afrique du Sud, et c'est vrai que le polar est bien vivant chez vous. Je me demandais pourquoi, à votre avis, l'Afrique du Sud se prête aussi bien au polar.
I think crime fiction is the number one best-selling genre.
Je crois que les romans noirs sont vraiment... C'est le genre qui est le plus vendu à travers le monde. Vous savez, il y a 30 ans, il n'y avait pas de romans noirs qui étaient écrits en Afrique du Sud. Et cette popularité du roman noir, c'est la normalisation de l'Afrique du Sud en tant que société. Les Sud-Africains aiment les romans criminels pour les mêmes raisons que tout le monde à travers le monde.
Et c'est vrai que comme beaucoup d'auteurs de votre génération, vous avez connu l'avant 94, mais vous avez commencé à écrire effectivement après. Donc peut-être au début dans l'optimisme d'une nouvelle Afrique du Sud, et puis vos personnages, on a le sentiment qu'ils sont au fond devenus, peut-être comme vous, plus désespérés, votre peinture du pays plus sombre. Celui-ci par exemple, est peut-être l'un des plus sombres, il attaque très frontalement le grand dysfonctionnement qu'est devenu l'Afrique du Sud. Est-ce que vous êtes de plus en plus pessimiste, Dionne Meyer, sur votre propre pays ?
La chose que l'on peut dire sur les Africains du Sud, c'est qu'on reste éternellement des optimistes. Il y a toujours des signes qui nous laissent l'autorisation d'être optimistes. Je ne suis pas aussi optimiste que je l'étais il y a 20 ans, à l'époque de l'arrivée au pouvoir de Mandela, mais j'ai encore de l'espoir pour le pays. Notre gouvernement fait quelques petites choses bien et d'autres choses mal, mais il y a des signes qui font que, bon, ils vont y arriver peut-être. Je suis encore optimiste, mais moins qu'il y a 10, 15 ou 20 ans.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous êtes très explicite cette fois, puisqu'on reconnaît Jacob Zuma, même si vous l'appelez Josaka, on reconnaît la fameuse commission Zondo qui avait été ouverte pour les faits de corruption dont il s'est rendu coupable, on reconnaît les frères Gupta aussi, vous changez un peu leur nom. Et au fond, comme tous vos personnages, mais j'allais presque dire surtout les méchants, en fait. On a l'impression que c'est eux qui sont les plus désillusionnés et qui n'ont plus aucun espoir vis-à-vis de cette Afrique du Sud. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils se lancent dans ce que vous racontez et qu'on ne va pas décrire.
You're referring to the detectives?
Non, vous parlez des détectives? Les autres, les méchants.
Oui. Oh, yeah, you know, I mean, when that's another thing about South Africa.
C'est un autre truc sur l'Afrique du Sud. Les bons sont très bons et les méchants sont très méchants.
C'est vrai. Sorry, go ahead.
No, so yeah, I think they are just real. I mean, people like Zuma are just criminals.
Zuma, ce sont simplement des criminels. Il y a rien d'autre à dire. Alors, pour eux, il y a pas de rédemption possible. Il y a rien de caractéristique qui puisse les sauver. C'est un criminel totalement corrompu.
Tous ces gens, en fait, que vous décrivez, les bad guys, ont été sperdes dans les guerres voisines. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans vos livres, ou ont appartenu à des unités d'élite qui étaient ultra-violentes. L'un de vos personnages, on ne dira pas qui c'est mon préféré, s'est perdu dans le bush, au milieu des animaux, pour ne plus penser au monde, au fond. Est-ce qu'il y a une espèce de sentiment de trahison, au fond, dans ce pays, et qui fait que ces gens se perdent? Est-ce que c'est comme ça que vous les avez imaginés?
Yes, I think there's a huge feeling of betrayal.
Oui, il y a un grand sentiment de trahison chez beaucoup de Sud-Africains, à travers tout le spectre économique, à travers tout le spectre culturel. On avait tellement d'espoir il y a 30 ans avec la fin de l'apartheid. C'était une nouvelle aube, une nouvelle ère, et les choses avaient l'air d'aller tellement bien. Et les années Zuma ont détruit tout ça. Donc, à travers la majorité des Sud-Africains, il y a ce sentiment d'avoir été trahi par nos dirigeants, par nos politiciens, qui ont fait tous les mauvais choix. Et regardez, Regardez qui sont les gens au gouvernement. Ils ont des liens avec des pays diplomatiques qui ne sont pas vraiment à la hauteur. C'est une folie. Oui, il y a vraiment un grand sentiment de trahison en Afrique du Sud.
Et en même temps, c'est vrai que la violence a toujours été présente dans votre pays et c'est peut-être même l'une des caractéristiques de l'Afrique du Sud, y compris avant. Vos personnages l'ont tous embrassé. C'était le cas aussi dans les romans précédents. Ça l'est ici. Dans Léo, ce qui est intéressant, on le sent dans le premier braquage. Il y en a deux. Je conseille vraiment à nos auditeurs d'y aller. Le deuxième est super impressionnant. Dans le premier braquage, ça peut se passer sans heurts. Mais pas dans le deuxième. Et c'est comme ça. Il y aura des morts. Et on s'en fout. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi comme ça que fonctionne ce pays.
On ne peut pas écrire des romans noirs sans violence, d'une manière ou d'une autre.
Je crois que
la violence est universelle dans le roman noir, dans tous les pays du monde. Je crois que les romans noirs scandinaves sont beaucoup plus violents que n'importe quel autre au monde. Si vous regardez, par exemple, ce qui est écrit sur les meurtres en Suède, en Finlande, dans les pays nordiques, regardez la violence du crime ou de la fiction criminelle, ben c'est sans aucun lien. Mais j'utilise aussi la violence dans mes livres. Et vraiment, je reflète la violence de l'Afrique du Sud. Mais il y a une grosse différence entre la fiction et la réalité en Afrique du Sud. La réalité, c'est que la plupart de la violence... Et vraiment, c'est tellement triste, ça vous brise le cœur quand il se produit. Alors que dans les romans noirs, eh bien, vous menez la violence dans un livre qui est un divertissement. Ben, c'est une grosse différence.
D'ailleurs, vous m'avez obligé à aller sur Internet voir ce que c'était que la mousse expansive. J'ai compris que ce n'était pas une manière agréable de mourir. Je me demandais, quand on est un auteur comme vous, qu'on a écrit tellement de polars déjà, si on cherche une manière de tuer ces personnages que personne n'a trouvé avant vous. Et c'est là que vous êtes tombé sur la mousse expansive, Leon Meyer.
Yes. Well, it was actually one of my writing colleagues.
Ben, c'est un de mes collègues en écriture, Mark Nicolan, avec qui je discutais un soir sur des façons innovantes de tuer les gens. Et c'est l'idée de Mike. C'est lui qui m'a vendu l'idée de cette mousse expansive. Le premier des deux qui veut l'utiliser, ben allez, il l'utilisera. Et j'ai donné à Mike 4 ans avant de l'utiliser moi-même. Et voilà, c'est une façon intéressante de tuer. C'est quelque chose de très graphique, hein, c'est très descriptif ce genre de truc.
Ah ben, on se rend très très bien compte effectivement de ce que ça peut donner. Oui, ça fait 9 fois, et je le disais tout à l'heure en introduction, Dion Meyer, qu'on voit arriver Benny Grissel et Von Cupido. C'est vos deux flics fétiches. Je me demandais si vous choisissez où les emmener. Ou est-ce qu'une fois que vous tenez l'histoire, vous vous demandez si vous pouvez les emmener? Ça marche dans quel sens? Qui est-ce qui mène la danse? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est l'histoire?
J'espère que c'est moi qui suis au volant. Hein. Mais pour moi, l'histoire vient toujours d'abord. Quand j'ai une bonne histoire qui m'enthousiasme, je dois l'écrire, qui me passionne. La première question, c'est est-ce que cette histoire va pour Benny Grissel, comme il faut le prononcer? Et donc, ailleurs que dans d'autres. Et si ça ne va pas, eh bien, j'utilise d'autres personnages. Mais l'histoire, il y a toujours la pression des éditeurs. On commence par rechercher des histoires qui peuvent intéresser. Et quand on commence à écrire, quand je suis au tiers d'un... Là, je suis en ce moment au tiers d'un nouveau bouquin. C'est merveilleux comme... C'est le livre qui vous dicte le développement de l'histoire. Je sais toujours dans quel coin je veux aller, mais il y a une énorme influence. Les personnages ont une énorme influence sur le livre. Donc moi, je suis aux commandes, mais les personnages ont beaucoup à dire dans l'écriture de l'histoire aussi.
Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un personnage qui est mon préféré. Je ne dirai pas lequel c'est parce que ça dévoilerait un certain nombre de choses, mais vous allez comprendre de qui je parle, qui, à la fin, va s'en sortir. Est-ce que vous savez, au début du bouquin, qu'il faut sauver la peau de ce personnage-là? Ou est-ce que vous vous laissez entraîner et puis on verra bien lequel va mourir à un moment? Vous avez deviné quel est mon personnage préféré, non?
Oui, j'ai compris. J'ai une idée plutôt assez claire de qui va survivre. Mais parfois, il faut changer son fusil d'épaule. Avec ce personnage dont vous parlez, là, elle vient d'un livre précédent.
You said she, but c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe.
I knew that
Mais je savais this character was que going ce to personnage survive. Allait survivre.
Because I would love to have a future book about this character.
Un nouveau livre avec ce personnage-là.
Ah ouais, moi aussi j'ai envie de la suite, j'ai envie de savoir si elle va vraiment s'en ressortir. Vous avez parlé de vos deux personnages, Grissel et Cupido. Et comme vous le dites, hein, il y a une pression parce qu'on est tous très attachés. C'est la neuvième fois que vous les faites apparaître. Vous les avez un peu lâchés dans les deux derniers bouquins. Est-ce qu'effectivement on vient vous chercher en vous disant non, mais Dionne Meyer, désormais ça ne nous intéresse pas en fait. Ce qu'il nous faut, c'est la suite des aventures de Grissel et Cupido. Et au fond, vous êtes un peu prisonnier de ça.
Yes, that happens a lot.
Oui, ça arrive souvent qu'on vienne me demander de continuer les aventures de Grissel et Cupido.
You learn quite early in your career that it's
on apprend très tôt dans sa carrière qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc, quand j'écris un nouveau livre, les gens sont très énervés. Et si j'écris pas sur Grissel et l'autre, et si j'écris sur eux, les d'autres gens qui sont énervés, bon, on peut pas vraiment faire plaisir à tout le monde.
Et celui où vous êtes là en ce moment au Deux-Tiers, est-ce que c'est encore une histoire de Grissel et Cupido ou pas?
Oui.
Ah, bah voilà. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que c'est justement parce que l'ensemble du livre, vous le disiez, évidemment est très violent, c'est un polar, on est en Afrique du Sud, on l'a beaucoup décrit. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que vos deux personnages sont presque de plus en plus chamallows, en fait? Il y en a un qui a la trouille de se marier, il y en a un autre qui compte les calories sur une appli parce qu'il n'arrive pas à perdre ses kilos. Il y a un contraste qui semble de plus en plus net entre ces deux personnages-là, vos deux flics fétiches, et ce que vous leur faites vivre à côté dans les crimes qu'ils ont à résoudre.
I think the main influence is that
l'influence principale, c'est que moi, je me suis adouci avec l'âge. Quand Benny était dans un endroit très difficile, son monde était très, très sombre. Mon monde était très sombre aussi. Et une chose merveilleuse m'est arrivée. J'ai rencontré ma femme Marianne il y a 15-16 ans. Elle m'a apporté beaucoup de lumière et d'amour dans ma vie. Après beaucoup de souffrances, j'ai adouci ma carrière aussi d'écrivain. Pas seulement dans ma vie, mais c'est ma carrière aussi. Mais c'est vraiment ma situation personnelle qui a influencé sur ces deux flics en question. Et puis vous savez, bon, je vieillis. Et en vieillissant, on se radoucit.
Et vos deux flics aussi vieillissent, d'ailleurs.
Yes, absolutely.
Oui, tout à fait. Ils ont des femmes merveilleuses dans leur vie, ils ont des belles relations avec elles, et ça fait toute la différence.
Vous avez, Dionne Meyer, est-ce que vous avez le sentiment, je vais plutôt vous le demander comme ça, d'avoir commencé une école au fond du polar sud-africain? Est-ce que c'est ça aussi qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et que vous avez autant de succès? Est-ce que vous diriez qu'il y a une école Dionne Meyer aujourd'hui?
No, I don't think there's a school.
Ah, je pense pas qu'il y ait une école d'écriture de Dionne Meyer, mais
I was simply the first one to attempt crime fiction.
Le premier à écrire des romans noirs dans l'Afrique du Sud après l'apartheid. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent maintenant des romans noirs, mais c'est une normalisation sociale de l'Afrique du Sud et notre marché du livre et notre littérature vraiment reflète le pays tel qu'il est. Et c'est la même chose qu'en France, en Allemagne ou dans d'autres pays du monde.
J'ai une toute dernière question connexe pour vous, Dionne Meyer. L'Afrique du Sud est aussi dans le collimateur de Donald Trump qui a mis fin aux aides, qui accuse aussi le pays de discrimination, notamment envers les Blancs. Il y a une grosse montée et il y a surtout Elon Musk qui est sud-africain. Et je me demandais comment l'Afrique du Sud réagissait à ça et comment elle vivait ce personnage-là qui prend tant de place.
Well, I am happy to say that the majority of South Africans think that Trump and
les Sud-Africains que Trump et Elon Musk sont des l'interprète va dire ça plus doucement, ce sont des idiots. Mais ce que Trump a dit au sujet des Afrikaners n'est pas vrai. Il a été influencé par des gens de droite en Afrique du Sud et Musk. Masque, c'est masque. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Voilà, et vous êtes Dionne Meyer, et c'est ça qui est bien. Le bouquin s'appelle Léo, chez Cyril Noir Gallimard, bien sûr, traduit de l'Afrikaans par Georges Loury. Et celui qui prêtait votre voix, c'est comme d'habitude Michel Zlotowski. Michel, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci vraiment. La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe au Japon, où la secte Moon vient d'être durement touchée au portefeuille, figurez-vous, et aura peut-être du mal à s'en relever. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Pérou, un sacré coup de pied sur un terrain de foot, pas celui d'un joueur, mais celui de l'arbitre.
Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Et si la Chine sortait gagnante de la bataille commerciale avec les États-Unis?
Et la tech, la première, c'est vous Stéphane Jourdain. Salut Stéphane.
Bonsoir Fabienne, je vais vous raconter pourquoi le trafic des sites d'info s'écroule aux États-Unis et ce que prépare le journal Le Monde pour ne pas subir le même sort.
La suite, les amis, restez avec nous. Le tour de la planète continue. Il passe par l'Italie, le Mali, un petit peu la France aussi, parce que c'est chez nous qu'a été enregistré ce morceau de Pierce Faccini et Balaké Sissoko. If Nothing Is Real, c'est en playlist sur Inter.
To myself, finding somewhere that I can be for something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real.
Le reportage d'Un jour dans le monde est au Japon ce soir. Souvenez-vous, en 2022, l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe était assassiné et le meurtrier voulait le punir en raison de ses liens avec la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, une secte que vous connaissez tous sous le nom de la secte Moon. Depuis, la justice nippone a pris conscience des ravages de cette organisation, notamment sur les enfants des fidèles, si bien que cette branche japonaise, avec ses 600 000 membres quand même, vit peut-être désormais ses derniers mois d'abondance, puisque c'est au porte-monnaie qu'on va frapper très fort. Et le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte.
Ce jugement marque le début d'une crise de la liberté de croyance au Japon, le début d'une crise générale de la religion.
Il est en colère, Tomohiro Tanaka, le patron de la branche japonaise de la secte Moon, et pour cause. Le tribunal de Tokyo a rendu le 25 mars une décision qui frappe l'organisation au portefeuille, en lui supprimant le statut en vertu duquel elle est depuis des décennies exonérée d'impôts. Le patron, lui, se place en victime d'une censure politique.
L'ex-premier ministre Fumio Kishida a mobilisé des agences gouvernementales pour poursuivre notre organisation, autrefois appelée Église de l'Unification, de façon systématique, continue et mal intentionnée. Cela dans un but politique personnel. Il a agi quasiment comme dans une dictature. C'est une crise de liberté de religion, une crise démocratique.
Mais pour le juge qui a prononcé ce verdict, il s'agit surtout de mettre fin à la liberté que s'est octroyée depuis des décennies la secte, celle de siphonner l'argent de ses fidèles. Hiroshi Yamaguchi, avocat de victimes de cette organisation.
Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Même si la reconnaissance administrative de cette organisation est supprimée, la structure religieuse perdure et elle a parfaitement le droit d'exercer son culte, de collecter des dons en accord avec la loi. Ce que le jugement lui ordonne, c'est d'arrêter ses pratiques illégales, point barre.
Ce qui est reproché à la secte, c'est d'avoir, de façon systématique et mal intentionnée, forcé par différents moyens ses fidèles à payer des produits et services spirituels factices pour des sommes astronomiques, bref, de les avoir ruinés, eux et leurs enfants. Katsuo Miyabe, autre avocat de victime.
Le jugement a été prononcé en vertu du droit et en se fondant sur des preuves. Il a reconnu des faits. Ce verdict établit que le problème relatif à cette organisation est profond, qu'elle a créé des dommages d'une ampleur inégalée et qu'il est vain d'espérer qu'elle puisse s'améliorer.
Une fois le jugement confirmé après les procédures d'appel, le patrimoine et les fonds de l'organisation doivent être liquidés et en théorie, les victimes pourront être indemnisées, à moins que la secte ait déjà transféré ailleurs son argent. Masaki Kito, lui aussi avocat, qui suit le dossier depuis très longtemps.
Si une organisation religieuse au seuil de la liquidation dissimulait ses fonds, il s'agirait, je pense, d'un délit. En tout état de cause, le processus de liquidation n'est pas une confiscation de biens. Mais du point de vue des victimes, c'est ce qui constitue la base des indemnisations.
Hélas, ce n'est pas si simple car la loi est très floue. Et même si tout se passait bien, ce ne serait qu'une maigre réparation au regard du préjudice subi, comme en témoigne cette descendante de fidèles de la secte, dont la voix est transformée à sa demande.
Je devrais me réjouir de la décision du tribunal d'enlever son statut administratif à l'ex-église de l'unification. Mais en réalité, je n'en retire aucune joie. Si je devais situer cette avancée sur une échelle à 10 crans, ce serait seulement le troisième. Même avec cette décision, des sévices vont continuer et des enfants risquent encore de perdre la vie. Fondamentalement, la décision du tribunal ne change pas la situation. Il faut des lois spécifiques pour protéger les enfants.
Pour le moment, le problème de maltraitance des enfants de croyants de secte reste entier.
Karine Nishimura pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Nous sommes d'abord en Haïti, Kevin, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue hier.
Pour dire une fois de plus leur ras-le-bol de l'insécurité persistante, de la mainmise des gangs violents sur la majorité des quartiers de la capitale, Port-au-Prince. C'est la deuxième manifestation de ce genre en deux semaines. Elles sont devenues très rares, justement parce que la plupart des Haïtiens ont peur d'être visés par les groupes criminels. Des centaines de manifestants ont érigé des barricades, mis le feu à des pneus ou des palettes pour bloquer les artères principales de Port-au-Prince. La capitale paralysée toute la journée, écoles et commerces fermés. Les manifestants ont voulu se rendre devant les locaux du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre, dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Vous devriez être de notre côté, ont lancé certains aux agents qui attendent toujours d'être épaulés par 2500 policiers d'une force internationale. À terme, pour lutter contre les gangs, ils sont aujourd'hui moins de 1000.
Et nous voici en Slovaquie où le gouvernement s'en prend aux ours.
Oui, le Premier ministre vient d'approuver l'abattage de 350 ours, soit trois fois plus que l'an dernier. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où les gens ont peur d'aller dans les bois, estime Robert Fico, qui a même déclaré l'état d'urgence dans la plupart des districts en Slovaquie, en raison, dit-il, de la présence indésirable d'ours. La décision était attendue, d'autant plus après la découverte des restes d'un homme dans le centre du pays dimanche, probablement tué par un ours. Cette annonce est très critiquée par les défenseurs de l'environnement, considérée comme illégale au regard du droit européen, puisque l'ours brun est une espèce protégée et que l'abattage n'est autorisé que quand ces animaux s'attaquent aux biens ou aux personnes et s'il n'y a pas d'autre solution. Les ONG appellent plutôt à renforcer la prévention et l'information du public. Mais l'offensive du gouvernement slovaque semble s'inscrire sur le long terme. La ministre de l'Environnement estimant que 800 était un nombre suffisant d'ours en Slovaquie, alors qu'il y en a 1300 aujourd'hui.
Et puis nous sommes au Pérou avec un vilain geste.
Oui, sur un terrain de football, mais ce n'est pas celui d'un joueur, c'est celui de l'arbitre de la rencontre entre Akiya et Magdalena dans le cadre du championnat du district de Casma. C'était dimanche, je suis sûr que ça vous parle, Fabienne.
Oui, totalement.
À la 38e minute de jeu, l'arbitre dégaine un carton rouge à l'encontre d'un joueur de Magdalena. Un membre du staff de cette équipe sort alors du banc, court vers l'officiel avec la ferme intention de lui lancer visiblement sa bouteille d'eau. Et dans un réflexe digne des plus grands films de Kung Fu, l'arbitre lui assène un high kick, un coup de pied bien haut, le touchant au niveau du cou quand même. Un geste de défense, certes, aussi dangereux que maîtrisé, faut bien le dire. L'équilibre était parfait avec crampon. L'assaillant est tombé instantanément sur la pelouse, mais s'est relevé aussi sec pour tenter à nouveau de s'en prendre à l'arbitre. Défendu par ses assistants et des stadiers, le match a été interrompu et depuis, le coup de pied fait le tour des réseaux sociaux.
Ah vous m'étonnez. On a été voir, évidemment, nous tous.
Oui.
Voilà,
et c'est sur la page de Sous les radars. Bah,
évidemment,
si
et c'est très impressionnant, Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Tiens, Thomas qui réalise cette émission, une devinette pour vous. Est-ce que vous savez qui est James Newell Ostenberg Jr. ?
Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qu'on surnomme l'iguane ?
Eh bien, c'est bon, on a déjà entendu le début, c'est pour ça que vous savez. Iggy Pop, King of the Dogs, sur Inter et dans un jour dans le monde.
Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Whole life, life will fill you full of cancer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby.
Of the Dogs, Iggy Pop, vous êtes dans Un Jour dans le Monde sur France Inter et Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, journée très agitée donc, sur les marchés financiers mondiaux après les annonces de Trump sur les droits de douane américains. Les pays touchés réagissent avec plus ou moins de vigueur. Focus avec vous sur un pays, la Chine, et vous nous dites pourquoi ces droits de douane sont un test pour Pékin.
La Chine, c'est bien sûr l'autre superpuissance mondiale, le grand rival des États-Unis, le pays avec lequel le déficit commercial est de loin le plus élevé pour Washington, près de 300 milliards de dollars. Trump l'a donc logiquement placé en très bonne place dans sa liste des territoires à taxer. 34% de droits de douane supplémentaires, qui s'ajoutent aux 20% déjà imposés à Pékin le mois dernier, et à d'autres taxes sur les importations chinoises décidées lors du premier mandat de Trump. En prime, les petits colis ne seront bientôt plus exemptés. Des groupes comme Shein ou Temu se sont beaucoup développés récemment aux États-Unis. Cette nouvelle hausse des droits de douane est donc d'abord une gifle pour la Chine, dont l'économie, vous le savez, repose d'abord sur les exportations. Le géant asiatique plafonne à 5% de croissance annuelle, un taux élevé vu d'Europe, mais un des plus bas en Chine depuis plus de 30 ans. Les perspectives s'assombrissent un peu plus après les annonces de Trump.
Et alors, quelle est la réaction de Pékin ?
Eh bien, elle reste mesurée, Fabienne. Le ministère chinois du commerce regrette l'unilatéralisme, le protectionnisme des États-Unis, mais Mais il insiste, il faut maintenir la communication avec Washington. Depuis plusieurs semaines, Pékin tient le même discours. Une guerre commerciale ne profite à personne. Le protectionnisme ne mène nulle part. Il faut dialoguer, éviter la confrontation. À vrai dire, la Chine contourne une partie des droits de douane en passant par d'autres pays, comme le Vietnam ou le Cambodge. Mais ceux-là aussi sont visés par les taxes de Trump.
Donc la Chine va devoir réagir plus fortement.
Ben, ça paraîtrait logique. Et pourtant, Pékin ne semble pas encore emprunter ce chemin, même si des contre-mesures devraient être annoncées dans les jours à venir. Après tout, la Chine a aussi des raisons de se féliciter des nouveaux droits de douane américains. D'abord, tout le monde est frappé, y compris des concurrents de la Chine. Ensuite, Pékin peut trouver de nouveaux partenaires commerciaux qui se détournent des États-Unis. Enfin, d'une manière générale, la Chine trouve ici l'occasion de renouer les liens avec l'Union européenne, de se présenter en apôtre du multilatéralisme face à une Amérique repliée sur elle-même. Dans une vidéo diffusée aujourd'hui en anglais sur les réseaux sociaux, Pékin vante son modèle: sécurité, égalité entre nations, justice, prospérité pour tous, solidarité. Sur l'air, Fabienne de We Are The World, signé Michael Jackson et Lionel Richie.
Et ces droits de douane francs seraient donc une opportunité pour la Chine.
Mais Pékin pourrait en effet y voir un mal pour un bien. La Chine offre aujourd'hui des repères à un moment où les États-Unis bousculent les certitudes économiques et géopolitiques. Et la deuxième puissance économique mondiale ne manque pas d'atouts. Elle domine des marchés d'avenir, comme les voitures électriques, réalise des prouesses en matière d'intelligence artificielle. Ce n'est pas Stéphane Jourdain qui vient de démentir. Donald Trump veut contraindre Xi Jinping à négocier, à vendre par exemple les activités américaines de TikTok. Mais le président chinois ne veut pas céder au chantage. Il prend son temps. Aujourd'hui, face à l'isolationnisme des États-Unis, la Chine, c'est presque un comble, peut devenir un recours, presque une nouvelle incarnation de la mondialisation heureuse.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le jeudi, on fonce dans le merveilleux monde du numérique et de l'IA. La tech, la première, c'est Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18-20.
Stéphane, le trafic des sites d'info aux États-Unis connaît une sévère baisse depuis quelques mois. Et comme toujours avec vous, donc c'est à cause de l'intelligence artificielle.
Oui, depuis le mois de mai, le trafic des sites d'info américains a chuté de 15%. Depuis juillet, c'est même plus fort, moins 23%. Cette dégringolade coïncide parfaitement avec le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité du moteur de recherche Google, qui inquiète beaucoup les médias aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Google Overviews, c'est son petit nom, un outil d'IA qui apparaît par défaut en tête des résultats du moteur de recherche, comme nous l'explique Virginie Clève, consultante en stratégie numérique pour les médias.
Aux États-Unis, Google a développé une nouvelle fonctionnalité à base d'intelligence artificielle qui permet de générer des résumés directement depuis la page de résultats lorsque l'on fait une recherche. Évidemment, le corollaire, c'est de générer moins de clics vers les sites des éditeurs, puisque la réponse est directement dans la page de résultats Google. Parallèlement, il y a d'autres usages qui se sont créés avec ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle où là aussi on pose une question en langage naturel et où on obtient directement la réponse. Et donc forcément, les deux. Cela génère une baisse d'audience vers les sites d'info.
Et donc une baisse d'audience, Stéphane, qui pousse les médias à porter plainte contre ces IA.
Oui, le New York Post et le Wall Street Journal contre Perplexity, le New York Times contre OpenAI et la plateforme de formation Chegg, qui a perdu 50% de son trafic en quelques mois, contre Google Overviews. Toutes ces IA qui montent en puissance se gavent des infos glanées dans les articles en ligne, mais elles gardent le trafic pour elles. Il n'y a quasiment pas de lien sortant.
Et donc on imagine que tout ça doit aussi beaucoup inquiéter les sites d'infos en France.
Oui, car Google Overviews commence à être déployé en Europe, pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, ne s'en cache pas, il regarde tout ça de très près.
On est très attentif à ce que Google fait à l'étranger, pour essayer d'en comprendre la logique et les risques pour les éditeurs. La priorité, c'est que Google, avant de déployer Overview en France, s'assure que ce développement respectera pleinement le droit d'auteur de nos journalistes en prévoyant une rémunération avant d'indexer nos contenus et de les utiliser. Une rédaction comme Le Monde peut en bénéficier, mais pas de manière gratuite et aléatoire. Donc il faut structurer le déploiement d'Overview. Et ça, on va y travailler dans les prochains mois avec les équipes de Google.
Mais est-ce que le structurer, ça passe par un accord entre vous et Google ?
Ça passera forcément par un accord, tout à fait. Ça ne peut pas être fait à notre insu ou contre notre gré.
Donc le monde, on a bien compris, veut arracher un accord avec Google, comme il l'a fait d'ailleurs pour ChatGPT avec OpenAI.
Accord signé il y a tout juste un an, quand ChatGPT s'appuie sur des articles du Monde pour ses résultats, il doit mettre en exergue un lien vers la page web et verser des droits au Monde. Louis Dreyfus tire un premier bilan de cet accord.
On est moins de 15 acteurs dans le monde à avoir signé un accord avec OpenAI et chacun est en train de voir la part de trafic apportée par ChatGPT progresser. Ça reste marginal, mais on est au tout début de cette aventure. Pour nous, ça fonctionne comme un teaser, c'est-à-dire une incitation à l'abonnement. Quand les utilisateurs de ChatGPT cliquent sur ce lien qui met en avant le Monde, nous avons un taux de conversion donc vers l'abonnement qui est supérieur à ce que nous apportent des moteurs de recherche plus classiques.
Bref, c'est marginal, mais c'est prometteur.
Et puis surtout, c'est mieux que rien, non ?
Oui, rien, puisque c'est bien ça l'alternative pour l'immense majorité des sites d'info. Ceux qui n'ont pas signé d'accord avec ces IA peinent à les bloquer et voient leur trafic chuter. Des accords, le Monde va donc en signer d'autres.
Je pense que la meilleure façon d'éviter cet écueil, c'est de signer des accords qui permettent de valider l'utilisation et le référencement de nos contenus.
Ça veut dire qu'il y aura probablement à l'avenir d'autres accords avec Mistral, Perplexity, etc.
En tout cas, on y travaille. Tout à fait, le Monde a vocation à signer d'autres accords. OpenAI n'était pas un accord exclusif, mais il a eu l'immense mérite de créer deux précédents, qu'un acteur majeur d'intelligence artificielle reconnaisse la valeur des contenus, et d'autre part, qu'une partie de ses revenus sont distribués aux journalistes comme droits voisins. Et ça aussi, ça nous semble très important.
Pour le Monde, ces IA présentent un énorme avantage.
La faculté a touché une nouvelle génération, des jeunes générations qui sont massivement investies dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui vont aller chercher l'information d'abord via les moteurs Google Overview, ChatGPT, Perplexity. Et nous, on ne peut pas prendre le risque de laisser passer ce train. C'était important pour le Monde d'être acteur de cette révolution.
La révolution, c'est bien ce qui attend le monde des médias dans les mois qui viennent, prévient Virginie Clève.
Surtout, il faut dire que quand même, on est qu'au début de l'intelligence artificielle et que ça, c'est la photographie à la date d'aujourd'hui, mais que l'IA va bouleverser complètement de nouveau la manière dont on consomme l'information. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle révolution de l'Internet. C'est impossible de savoir vers où cela va. La seule chose qui est certaine, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une révolution en marche qui ne va pas s'arrêter.
Une révolution qui ne va pas s'arrêter. Vous n'en avez pas fini avec cette chronique, Fabienne.
Dame.